La fois dernière, nous avions accueilli Véronique Mariage qui a parlé sous le titre « L'objet et la chose ». J'ai repris quelques petits moments au fond du texte de Lacan pour replacer quelques idées sans avoir l'ambition d'être tout à fait complète. Donc pour vous remettre en mémoire un petit peu d'où on était parti la fois dernière. La psychanalyse pourrait sembler être, dans l'ordre éthique, la recherche d'une morale naturelle, ce que Lacan appelle la dimension pastorale. Or, ce que Freud montre, c'est que les choses se présentent tout de suite avec un caractère de méchanceté. Donc pas de douceur naturelle, si on peut dire. Il apparaît un caractère paradoxal de cette conscience morale, d'autant plus cruelle elle est que moins nous l'offensons. L'analyse éclaire ce que nous pouvons nommer au fond de l'homme la haine en soi, ce qui serait au fond de chacun de nous. La pulsion, le trib, n'est pas loin du champ de Dasding, nous dit Lacan, de la chose. Et quelle est la nature, se pose-t-il comme question, de cette pulsion ? Elle peut donner voix à la satisfaction, notamment par le biais de la sublimation. Et c'est comme ça qu'il va aborder la question de la sublimation. Les pulsions témoignent, nous dit-il, d'une grande plasticité. Tout ne peut être sublimé et il y a une exigence de satisfaction directe. Alors, il nous dit qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce qui s'était déjà fait ou dit, de rentrer dans une catégorisation du type d'un côté la libido et le microcosme interne à l'être humain opposé au macrocosme. L'investigation freudienne, nous dit-il, a fait rentrer en nous tout le monde, l'a remis définitivement à sa place, à savoir dans notre corps et pas ailleurs. Il fera allusion à Luther qui disait « Vous êtes le déchet qui tombe au monde par la nuit du diable » pour indiquer le mode d'exil radical de l'homme par rapport au bien du monde. Il reste un point d'irréductible dans les pulsions. Les aspirations les plus archaïques de l'enfance s'y retrouvent et la substitution infinie des buts s'y retrouve aussi. Dans la sublimation, il y a changement dans les objets d'une façon à obtenir une satisfaction directe. Donc on revient sur la question de la satisfaction par rapport à la sublimation. Il se pose la question de savoir si c'est parce que ces objets sont valorisés socialement. On vise ces objets par la sublimation. Il répond que oui, mais ça va au-delà. Lacan parle du rapport narcissique et imaginaire à l'objet en reprenant les termes de Freud. Et il nous dit, et je terminerai là-dessus, entre l'objet tel qu'il est structuré par la relation narcissique et Dasding, la chose, il y a une différence. Et c'est justement dans la pente de cette différence que se situe pour nous le problème de la sublimation. Voilà, j'en resterai là pour la conférence de Véronique Mariage. Je vais maintenant passer la parole à Bernard Sénard, qui va nous parler donc des séances 9 et 10 du séminaire, sous le titre de la création ex nihilo. Alors je vous rappelle que Bernard Sénave est psychanalyste à Tournai et à Lille, qu'il est directeur de l'institution Le Courtil qui se trouve et à la fois implantée sur Tournai et sur l'Ersnor qui est à la frontière, et qu'il est analyste de l'école de la cause freudienne. Voilà Bernard, je vous cède la parole. Merci.
Oui, donc la question de la sublimation, c'est une question qui m'a embarrassé. En fait, j'étais embarrassé parce que j'avais lu avant les 6 paradigmes de la jouissance, et que donc ici on se trouve au début, encore au début, enfin un moment charnière tout de même, de l'enseignement de Lacan, alors qu'il reprend la question de la sublimation à la fin. Et la difficulté que j'ai eue consistait, je pense, en ceci, et je ne sais pas si ça va se lire dans le texte que j'ai préparé, elle consiste en ceci, c'est que Lacan se trouve à un moment où il va aborder la question du réel par le symbolique. Le symbolique étant toujours à cette époque-là, ce qui est primordial, ce qui est le plus important. Comment aborder la question du réel? Et la parole, l'usage de la parole ici, est un moyen de s'approcher du réel, par la sublimation, de s'approcher de ce trou dans, que forme le réel. À la fin, ce qui m'a un peu questionné, c'est qu'à la fin de son enseignement, en fait, il présente l'usage de la parole, le signifiant, en tant que sublimation. C'est en tant que représentation, si vous voulez, de quelque chose qu'on ne peut pas attraper. Donc le langage en tant que sublimation elle-même. Et donc il y a une nuance, si vous voulez, on peut revenir à ça à la fin pour questionner ça, c'est pas si simple à comprendre. Parce qu'il reprend ici le symbolique du côté de la façon d'attraper quelque chose du réel. Donc il y a une grosse différence entre les deux. La sublimation ici ou la sublimation à la fin de son enseignement. Le langage en tant que tel comme sublimation. Et donc, il amène la... je suppose que ça vous a déjà été dit, peut-être dit, la question de d'Hastings comme de la chose, comme ce qui préfigure l'objet A, ce qui va devenir l'objet A par la suite. Et il va s'appuyer sur ce que Freud lui-même a amené concernant l'objet perdu. Donc je vais reprendre ça un peu. Ici on est dans le séminaire 7, on est à la leçon 9 et à la leçon 10, donc effectivement qui s'inscrivent dans la question qui est consacrée à la sublimation. Et dans cette... Donc je vais prendre le fil, si vous voulez, de la première leçon pour commencer. Ce sera plus détendu dans la seconde partie. Oui, je vous ai déjà prévenu. Alors, donc il commence par prendre, par s'appuyer sur un article de Mélanie Klein. Et il utilise cet article, bon, quand même pour rendre hommage à Mélanie Klein, mais aussi pour indiquer en quoi elle se fourvoie, Mélanie Klein. C'est un article qui date de 1929 et qui est paru dans Contributions psychanalytiques. Alors, cet article, précisément, est intitulé « Situation d'angoisse infantile en tant que réfléchie dans une œuvre d'art et dans l'impulsion créatrice ». Donc, on est là en plein dans la question de la sublimation. Donc, Mélanie Klein a travaillé cette question. Donc, vous savez, Mélanie Klein fait partie de ces psychanalystes dont la thèse était qui voulait faire valoir un stade pré-œdipien. Le stade œdipien étant celui qui met en fonction le père, le stade pré-œdipien étant celui qui met en fonction la mère, l'entité maternelle, qui était, selon Mélanie Klein et les analystes de cette école qui soutenait cette thèse, qui était prévalente. Elle est considérée comme une entité toute puissante. Je dis ça parce que donc on est en train de parler de la chose. Donc une entité toute puissante est à l'intérieur, donc une entité toute puissante à l'intérieur de laquelle se trouvent les objets de la mère. Donc on est, si vous voulez, au stade oral et la mère a dans son ventre, dans son être, les objets importants. Elle a, par exemple, elle a les enfants dans son ventre. Elle a le père, elle a le phallus du père. En fait, elle a tous les objets importants pour l'enfant. Et dans l'article, donc ça on voit dans la clinique, on peut mettre ça en évidence dans la clinique, quand je vois encore moi ma petite fille poser la main sur le ventre de sa mère et demander ce qu'il y a dans son ventre, et que la mère lui répond, ben, c'est un bébé. Ben, elle a du mal à se faire une idée de ça, comment il est arrivé là. Quand elle en est à son, je dirais, si ce qui est prévalent, c'est le stade oral, elle qui est à un moment où elle sort de elle est encore occupée de prendre son biberon le matin, elle ne peut que fantasmer sur l'idée, tiens, peut-être elle l'a avalé, elle l'a mangé, cet enfant. Comment il est arrivé là? C'est d'ailleurs une théorie sexuelle infantile, ça. Donc, dans l'article qui est cité par Lacan, Mélanie Klein fait d'abord un développement à propos de l'œuvre de Ravel, donc pour ceux qui la connaissent, sur le scénario de Colette, qui est « L'enfant et les sortilèges », et dans lequel Mélanie Klein s'attache à mettre en évidence les fantasmes sublimés de Ravel, et au-delà desquels il s'agit des fantasmes de l'enfant concernant le corps de la mère. Et ensuite, elle traite du cas clinique dont je vous parle un petit peu parce qu'il est fort intéressant, vraiment fort intéressant. Donc, il s'agit d'un sujet féminin qui est suivi par Karine Michaelis. Alors, donc, cette femme, ce cas clinique, se présente de la manière suivante. C'est une femme qui s'est toujours plainte de ce qu'elle appelle un vide en elle qu'elle ne peut jamais remplir. Sorte de mélancolie comme ça. Et il se fait que chez son analyste, après un travail analytique d'un certain temps, cette femme se marie. Et bon, pendant un petit temps, son état s'améliore. Donc cette sorte de mélancolie s'améliore. Une sorte de dépression. Et cette psychanalyste note un détail fort intéressant. En fait, je pense une pièce, ou je ne sais pas exactement, un certain nombre de pièces de la maison familiale, donc de la maison que les époux ont emménagée. Dans cette pièce, les mariés ont tapissé les murs des tableaux qui sont peints par le beau-frère donc de cette femme et qui a un certain talent. Et il se fait qu'un jour, le beau-frère vient enlever un des tableaux pour le ventre. Alors, il se produit chez cette femme une sorte de rechute, d'une tristesse. Donc, si vous comprenez bien le principe, c'est qu'à un moment donné, dans la série des œuvres, il y a un trou, il y a un vide. On n'a pas la place du tableau, un espace vide qui renvoie, dit Mélanie Klein, la patiente à son propre vide existentiel. Et cette situation ne convient donc pas à la patiente. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Alors voici ce qu'elle fait. Au fond, je dirais qu'elle traite, sa difficulté par l'objet. Vous allez voir comment. Elle se met à peindre elle-même un autre tableau en s'efforçant de s'approcher au plus près du style du peintre. Elle va acheter les couleurs dans le même magasin que l'artiste, la même palette, et elle se met au travail. Et elle se met au travail de telle sorte qu'à un moment donné, il en sort une œuvre. Alors, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais enfin, c'est raconté comme ça, en tout cas. Il n'y a pas de raison de ne pas le croire. Elle réalise comme ça un tableau qui s'inscrit parfaitement dans la série des tableaux du beau-frère et elle l'accroche à l'endroit du vide. Alors, lorsque le beau-frère découvre le tableau, il tombe à la renverse. Il se dit, vous ne me ferez jamais croire que c'est vous qui avez peint ça. C'est l'œuvre d'un artiste. Non seulement il est expérimenté, mais c'est un vétéran. Donc, Mélanie Klein voit dans... je ne sais pas ce qu'elle a répondu, peu importe, ça n'a pas tellement d'intérêt. Mélanie Klein voit dans ce miracle, si vous voulez, la confirmation de sa thèse sur le fantasme de l'enfant du corps de la mère, du stade pré-œdipien, et elle situe dans cet exemple clinique toutes les phases de la sublimation. Voilà comment on devient artiste. Donc, la sublimation, selon Mélanie Klein, ça consiste à remplir l'espace vide de la toile par toutes sortes de substituts maternels. C'est d'ailleurs, bon, je ne reprends pas tout le détail de sa description, mais c'est d'ailleurs, semble-t-il, ce qui a été peint sur le tableau, toutes sortes de substituts de la mère. Alors, Lacan, lui, il ne voit pas exactement la même chose. Enfin, il n'interprète pas les choses de la même façon. Donc, je ne sais pas si Véronique Mariage a ramené le petit exemple de sublimation de la boîte d'allumettes. Si, elle a ramené ça. Non, je ne vais pas le reprendre, mais donc, en fait, la question qui se pose et qu'il va prolonger dans cette leçon-ci, c'est comment il faut élever un objet sans valeur, au fond, un objet déchet, à la dignité, dit-il, de la chose. Et sans pourtant que ce soit la chose elle-même. C'est ça la difficulté. La chose, donc, comme telle, au fond, elle ne s'appréhende jamais directement. Elle ne peut se concevoir d'une certaine façon que voilée. Elle se présente toujours voilée. Pourquoi ? Eh bien, dit Lacan, parce que la chose occupe cette place que Freud a définie dans la thématique du principe du plaisir. Ce qui, du réel... Alors, c'est une phrase qui n'est pas si simple que ça à comprendre. Ce qui... Mais c'est extrêmement important parce que, c'est un pas épistémologique, si vous voulez, dans l'avancée de Lacan. Ce qui, du réel, pâtit du signifiant. Comment, au fond, dit peut-être plus simplement, on peut en discuter, comment on peut attraper des bouts de réel avec du symbolique. Alors on va essayer d'avancer dans la définition. Donc c'est au fond, c'est comme ça que je comprends cette phrase, que la chose est ce réel que le sujet tente de faire passer au signifiant. Et il va expliquer en quoi c'est le symbolique, l'organisation du signifiant même, qui donne consistance à la chose, que le signifiant tente, si vous voulez, de circonscrire. C'est un paradoxe, au fond. Alors, qu'est-ce que, à partir de cette orientation de la sublimation, qu'est-ce que c'est que ce champ de la chose ? Alors, Lacan va s'appuyer sur cet espace que Freud situe du côté de l'objet perdu, du côté de l'objet qualifié de perdu. Et, en fait, dit Lacan, pour être plus précis, je ne suis pas sûr que Freud parle d'objet perdu. En tout cas, ce n'est pas ce dont il s'agit, ce qu'il faut saisir ici comme subtilité, c'est plutôt que c'est un objet retrouvé. Un objet retrouvé. Alors, vous allez voir que c'est subtil comme différence. Parce que, donc wieder gefunden. C'est ça qu'il dit Freud, un objet retrouvé. Et c'est la définition fondamentale que Freud donne à cet objet. La subtilité, c'est une subtilité, pourquoi ? Parce que on a affaire à un objet qui est retrouvé, c'est parce qu'on a affaire à un objet retrouvé que par raisonnement rétroactif, on peut dire dans la logique d'après coup qu'on peut considérer que cet objet a été préalablement perdu. Vous saisissez la logique. Donc, il y a un objet qu'on retrouve, et c'est parce qu'on le retrouve, enfin, je simplifie très fort, c'est parce qu'il est retrouvé qu'on peut, dans l'après-coup, faire le raisonnement qu'il y avait un objet perdu. Après-coup, on peut dire un objet a été perdu. Mais c'est donc de sa nature un objet retrouvé. Lacan dit d'ailleurs ceci, qu'il ait été perdu en est la conséquence, mais l'après-coup. Et donc, il est retrouvé sans que nous sachions autrement que de ses retrouvailles qu'il a été perdu. Et il a été retrouvé, et donc on peut dire après coup, ben alors c'est parce qu'il a été perdu. Mais il est définitivement perdu. On ne fait que retrouver quelque chose qui vient s'y substituer, si vous voulez. Eh bien, en ce qui concerne la chose, on pourrait dire au fond des Lacan qu'on est dans la même logique. La chose, dans sa structure, ne peut pas être présentée. On se trouve dans ce domaine face à un impossible. La chose, donc, ne peut pas être présentée. Elle ne peut être que représentée. C'est une autre caractéristique de la chose. La chose ne peut pas être présentée, mais représentée. Alors, représentée par quoi ? On va approfondir la question. Eh bien, c'est représentée par quoi ? On est là en plein dans la question de la sublimation. La chose est représentée dans les retrouvailles de l'objet perdu. Et Lacan fait un rapprochement avec cette phrase qui est connue hein, de Picasso, qui est célèbre et qui pouvait dire « Je ne cherche pas, je trouve ». C'est fort intéressant quand on sait effectivement que ce dont il choisit, ce à quoi il faisait référence, c'est à son art. Donc j'essaye de garder le fil, de ne pas perdre de vue ce qui est en jeu ici dans la thèse de Lacan. Cette thèse, c'est quand même que la chaîne signifiante a pour fonction de tenter de circonscrire la chose. Et d'ailleurs, il dit, nous voici donc amenés au rapport de l'homme à ce signifiant, ce qui va nous permettre de faire le pas suivant. Dixit Lacan. Et la question qui se pose donc maintenant, c'est comment le rapport de l'homme au signifiant peut-il le mettre en rapport avec un objet qui représente la chose ? Et se pose ainsi la question de savoir ce que fait l'homme quand il élabore une chaîne signifiante. Le petit pas suivant dont parle Lacan, est introduit par cette petite phrase qui pourrait nous étonner. Alors écoutez-la bien. Il nous dit justement que le signifiant, c'est quelque chose qui est façonné par les hommes et, dit-il, probablement avec ses mains, encore plus qu'avec son âme. C'est une phrase un peu énigmatique comme ça. Pourquoi peut-il dire ça ? Pourquoi dit-il ici que le signifiant est façonné avec les mains de l'homme ? Réponse. Alors, pour tenter de circonscrire la chose, en passant par la question de la sublimation, il faut peut-être partir des origines de l'art. Ne pas hésiter, dit Lacan, à parler de la création. La question de la création, on est là en plein dans la question de la sublimation et de l'art, la question de la création est ici centrale. Cette question de la création est centrale parce qu'elle est éthique, comme on va le voir. Elle est éthique parce qu'elle, vous vous rappelez, il est en train de répondre à la thèse de Mélanie Klein. Alors, Lacan amène ce petit apologue qui est bien connu, qui est celui du potier. Alors suivez bien. Au fond, c'est assez simple, vous savez. C'est quoi un potier? Un potier, c'est celui qui fabrique des pots. C'est celui qui fabrique des vases. Vous êtes d'accord? C'est très simple. Alors, eh bien, figurez-vous que fabriquer des vases, c'est la fonction artistique du potier et elle est probablement la plus primitive qu'on connaît de l'homme. C'est probablement l'objet le plus primordial de l'industrie humaine. Bon, on peut me contredire, hein, moi je me... Bon. Et c'est sûrement l'ustensile qui permet d'affirmer sans ambiguïté, par exemple, la présence humaine là où on le trouve. Et ce qui est intéressant de repérer dans ce travail artistique, celui du potier, c'est que le potier, ça paraît tellement ridicule qu'on a envie de rire quand il le dit, mais c'est très subtil. Eh bien, le potier, quand il fait son vase, il doit le fabriquer à partir de la terre. Il doit le fabriquer à partir de quelque chose de matériel. Il faut de la matière pour le fabriquer. Pour fabriquer quoi? Drôle de question, on pourrait dire le pot. Pas du tout. Pour fabriquer un vide. Parce que le pot n'existe... Le vide... On va essayer de prendre des petits exemples dans la nature pour essayer de se le représenter. Le vide du pot n'existe pas avant que le potier fabrique le vase. C'est très logique. Le vide du pot n'existe pas avant que le potier ait fabriqué le vase. Et au fond, si vous voulez, bon, je prends mon cas personnel, je me souviens très bien que, par exemple, quand je voyais voler les oiseaux dans le ciel, tous les oiseaux étaient identiques. C'est à partir du moment, c'est essentiel, à partir du moment où j'ai pu mettre un signifiant sur tel oiseau, qu'il s'est mis à se différencier des autres oiseaux. Cet oiseau est un moineau, celui-là est un canard. Sinon, tous les oiseaux étaient des oiseaux. Et voilà, rien n'existe tant qu'on n'a pas mis le mot dessus. Après tout, c'est comme ça. Pour faire exister le vide, on doit lui faire une enveloppe. Pour créer le vide, il faut partir de quelque chose, de la terre. Vous me direz, bon, c'est idiot, c'est pas. Vous allez voir que c'est une thèse qui est extrêmement importante parce que elle a des conséquences, conséquences que vous allez voir qui sont étonnantes. C'est avec la terre qu'on crée le vase qui constitue le vide. Le vase crée le vide en créant Et en créant le vide, il introduit la perspective même de le remplir. C'est bien le vide, dit-il, que le potier crée, introduisant par là la perspective même de le remplir. Le vide et le plein sont par le vase créés. Donc, créés. On se situe là dans une perspective créationniste. C'est ça qui est important d'un point de vue philosophique. Le vide et le plein sont introduits dans le monde dans lequel l'instant d'avant il n'existait pas. Le vase est un objet créé qui vient en plus dans le monde, mais il a en même temps, paradoxalement, la propriété d'introduire le moins et par là la possibilité de le remplir. Alors, par quoi remplir le vase? Voilà la bonne question, parce que l'objet qui viendra à cette place, figurez-vous, pour l'homme, ne sera jamais le bon. Ça ne sera jamais le bon objet. L'homme remplit le vide par un supplément qui ne sera jamais adéquat. Et à cet égard, il faut remarquer que la chose est ce qui deviendra, d'ailleurs par la suite, l'objet A de Lacan. C'est déjà une façon d'attraper l'objet. Et c'est ici qu'il faut saisir le pas qui est franchi par Lacan. le pas qui est franchi par Lacan est le suivant. C'est en passant du vide à la possibilité logique de remplir ce vide, l'homme façonne de cette manière un signifiant. Ce signifiant qu'est le vase. Et c'est pour cela que Lacan peut dire que l'homme façonne le signifiant avec ses mains. Pourquoi ? Il façonne le signifiant avec ses mains parce qu'il doit nommer le vase. Il doit le dire, ceci est un vase. L'homme nomme cet objet. Le potier crée le vase en le créant. Il le fait entrer, il fait entrer son signifiant dans le monde. C'est ce que Lacan nous explique. C'est à partir de ce signifiant façonné qu'est le vase que le vide et le plein entrent comme tel dans le monde. Si le vase peut être plein, c'est en tant que d'abord dans son essence, il est vide. Jusque-là, ça va. Il me semble, hein ? Alors, ça, c'est un exemple créationniste. Cet exemple de la création du vase est repris par Lacan, en fait, de la mythologie créationniste. Alors, toute la philosophie antique, nous dit Lacan, s'articule autour de ça. Hein. Autour de quoi ? Autour du fait que le potier crée son vase à partir de la terre, c'est-à-dire à partir de quelque chose, à partir de la matière. Et c'est la raison pour laquelle la philosophie aristotélicienne nous est si difficile à penser, en fait. Elle est difficile à penser parce qu'elle doit être pensée à partir d'un postulat qui est que la matière est éternelle et que, par déduction, rien n'est fait à partir de rien. Moyennant quoi, ben, la philosophie antique reste engluée dans une image du monde qui n'a jamais permis à Aristote de penser et de considérer le monde et les rapports humains comme inclus dans une nature éternelle et illimitée. Alors, si on faisait un petit pas de côté par rapport à la philosophie créationniste, si on considérait maintenant la création du vase d'un autre point de vue, comme le fait Lacan, c'est-à-dire à partir de la découverte de Freud et de l'objet perdu, ou plutôt de l'objet retrouvé. Si nous considérons le vase en tant que représentant le vide, en tant que représentant l'existence du vide au centre du réel qui s'appelle la chose. Donc Lacan applique maintenant ici son raisonnement d'après-coup. Alors, de quoi est-ce qu'on s'aperçoit ? Eh bien, on s'aperçoit que ce vide, tel qu'il se présente dans la représentation, eh bien, se présente comme rien, comme un nihil. Et il faut en conclure que le potier crée le vase autour du vide. C'est-à-dire, ce n'est pas le vase qui crée le vide, c'est que le vide est là et que le potier crée le vase autour. Le potier crée le vase avec ses mains ex nihilo, à partir du trou. Alors, pour essayer de saisir ça, vous connaissez cette petite plaisanterie, c'est Lacan qui l'amène, cette petite plaisanterie sur le macaroni. Qu'est-ce que c'est un macaroni ? Un macaroni, c'est un trou avec quelque chose autour. Eh bien, ça c'est quand même un pas très important que franchit Lacan. Il y a, dit-il, une identité entre la construction de la chaîne signifiante et l'introduction dans le réel d'un trou, d'une béance. Le vase, c'est comme le macaroni. C'est un trou avec de la terre autour. Et la chaîne signifiante est cette terre avec laquelle l'être parlant circonscrit le trou de la chose dans le réel. Ça va, ça ? C'est bon, ça ? Donc, il faut pouvoir dire que c'est le signifiant qui introduit dans le réel une béance. Il faudrait décliner ça de mille façons pour tenter de cerner ce dont il s'agit. Et c'est ce raisonnement qui va permettre à Lacan de dire, par exemple, que la science moderne n'est pas créée de la philosophie, n'est pas née de la philosophie antique, mais de la ou de la perspective aristotélicienne qui considère la matière comme éternelle. La science moderne est née à partir de l'idéologie biblique. Ça a fait sauter, ça en a fait sauter quelques-uns des scientifiques. Eh bien, c'est pourtant comme ça. Donc, la science moderne, c'est-à-dire celle de Galilée, n'a pu se développer qu'à partir de l'idéologie biblique et judaïque. Le symbolique, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, le symbolique est bien ce qui peut représenter une chose alors que la chose est absente. Le symbolique, dans son efficacité, n'a pas cessé d'étendre son domaine depuis Galilée. Bon, revenons à notre vase pour avancer. Le vase, dans sa fonction de représenter le trou, est insignifiant. Ce qui veut dire que si on le prend au niveau du signifiant, le signifiant tente de circonscrire le trou. C'est un signifiant primitif qui est façonné, qui donne une notion de la création ex nihilo. Et le vase est donc une œuvre artistique dans la mesure où elle participe à la création. Alors, ça donne l'occasion de faire remarquer par Lacan que, au fond, une œuvre artistique est toujours quelque chose d'esthétique, quelque chose de bien, quelque chose de bon, quelque chose de beau. Et il ne dit pas ça par hasard, vous allez voir après pourquoi il amène ça maintenant. Il dit, à propos des cathares, parce que c'est intéressant de relever ça, il cite un passage de la Bible pour indiquer ceci: quand le Seigneur fit sa création, ex nihilo, sa création des fameux six jours, à la fin, il contempla tout et vit que c'était bon. On peut en dire autant du potier. Après qu'il ait fait cela, c'est bon, c'est bien, ça tient. Autrement dit, du côté de l'œuvre, c'est toujours beau. Du côté de l'œuvre, qui représente la chose. Alors, si Lacan fait cette remarque sur la beauté de l'œuvre d'art, c'est parce qu'il, d'ailleurs, il va reprendre ça plus tard par la suite, hein, vous allez voir ça. C'est parce qu'il veut nous emmener un peu plus loin, faire un pas au-delà de l'œuvre d'art, du côté du vide. Il s'avance donc vers cet au-delà. Allez voir ce qu'il y a derrière l'œuvre d'art, ce que voile l'œuvre, ce que voile la création. La beauté, va-t-il dire, c'est au fond le dernier voile devant le réel que l'œuvre elle-même recouvre. Et derrière le voile, qu'est-ce qu'on aperçoit? Bon, on ne pourrait pas le dire, mais enfin c'est quand même quelque chose qui se rapporte à l'horreur. On aperçoit quelque chose qui n'est pas si joli que ça, quelque chose qui est de l'ordre de l'horreur. Et si vous vous rappelez, pour ceux qui sont venus la semaine dernière écouter Jean-Claude Malval, on en a eu quelques petits exemples au fond de ça, des exemples cliniques sur lesquels peut-être on pourra revenir. Hein, il nous a donné l'exemple du syndrome de l'autopsie, si vous vous rappelez. Hein, de ces sujets qui inspectent des heures durant leur image dans le miroir, qui la vérifient jusqu'à ne plus y reconnaître, jusqu'à ne plus y reconnaître. Et ce qu'ils découvrent dans le miroir, alors c'est l'horreur. Alors là, Lacan, à l'appui de sa thèse, va chercher dans l'histoire du catholicisme. Bon, ici, je vous ai dit, hein, donc, ce que Dieu, au bout de sa création, ce qu'il contempla, c'était une œuvre qu'il considérait dans la Bible comme étant belle, bonne. Et Lacan va chercher dans l'histoire du catholicisme un événement qui va illustrer ce dont il s'agit. Et ce moment, eh bien, c'est le moment de la première croisade contre les cathares. Les cathares, donc, ils étaient ainsi surnommés, les cathares, bien ils constituaient une secte au Moyen Âge. Les historiens pourront en dire plus que moi, je ne suis pas historien. Une secte qui habitait dans le milieu de la France, et notamment dans la région d'Albi, et qui préconisait une absolue pureté des mœurs. Alors, les Albigeois, d'ailleurs, constituaient une fraction des cathares contre lesquels le pape Innocent III donc, va dépêcher la croisade du XIIIe siècle pour les persécuter, pour les détruire. Qu'est-ce qui était en jeu à ce moment-là? Mais c'est très précisément une question qui portait sur la création. Parce qu'ils étaient considérés comme des hérétiques. Et en fait, Lacan fait remarquer que la répression, l'efficacité de la répression qu'a subi les cathares par l'Église, elle était telle que toute trace de leur persécution a été effacée. On dispose quasiment plus d'aucun document sur les procès de l'Inquisition à leur égard. Tout a été effacé. C'est vraiment intéressant de le relever, ça. Cette volonté de ne garder aucune trace, aucun signifiant, aucune trace symbolique de ces événements est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Et Lacan dit, on peut même dire, souligne Lacan, que c'est le seul exemple historique où une puissance temporelle s'est trouvée d'une telle efficacité qu'elle a réussi à supprimer toutes les traces d'un procès. On peut se demander pourquoi. Il y a une bonne raison. La raison en est précisément que l'hérésie cathare portait sur une question philosophique relative à la création. À un certain moment donné de l'histoire de l'Europe, c'est justement poser la question de la création comme telle. Et il semble donc que, alors on va essayer de voir pourquoi elle s'est posée. Hein. Alors c'était quoi cette hérésie cathare? Eh bien il semble que d'abord que les mœurs des cathares étaient d'une pureté exceptionnelle. Cette pureté exceptionnelle de leurs mœurs était la conséquence en fait logique de leur thèse sur la création. Vous allez voir qu'on revient à la création de l'homme, à la création du monde par Dieu dans la Bible. La création, alors selon la théologie cathare, était une chose fondamentalement mauvaise. Vous avez dit que Dieu considérait que sa création était bonne. Elle était mauvaise. Elle était mauvaise dans son essence même. Le créateur, le démiurge, qui est une émanation mauvaise de Dieu, logique, s'il y a Dieu, il y a le diable. Eh bien, il est le responsable de la création et de la mauvaiseté du monde. Le monde est mauvais. Et ce démiurge est la cause de ce mal, qui est une conséquence de la création désastreuse qui mêle la matière à l'étincelle divine. Ce qui, de cette façon, conduit quoi? Suivez bien, c'est très logique. Conduit à la nécessité de la reproduction, à la génération, et donc aussi à la mort, et à la putréfaction. Donc, c'est notre monde, d'ailleurs qui n'est pas nécessairement des plus formidables, celui des hommes, ce monde qui est le résultat du péché originel. C'est le monde qui est la conséquence de la faute d'Adam et Ève. Le monde auquel les cathares aspirent, c'est quel monde? Eh bien, c'est le monde d'avant la faute originelle. Celui qui se caractérise au contraire par la pureté de la lumière. C'est le monde du bon créateur originel. Celui qui dit au septième jour qu'il était beau, qu'il était bon, et dans la création avait été souillé par l'intervention mauvaise du mauvais créateur qui a poussé à la faute les premiers hommes. Donc la philosophie cathare conduit ainsi les adeptes de la secte à s'efforcer de vivre dans une absolue pureté des mœurs pour atteindre un état d'avant le péché originel. Et donc on assiste à une série de préceptes qu'ils s'efforcent d'appliquer. Par exemple, il s'imposait une ascèse qui était poussée vraiment très très loin. Elle ne pouvait pas se produire. Les relations sexuelles étaient à éviter absolument. Et leur pratique visait à atteindre la mort dans un état de détachement le plus avancé. Ils ne mangeaient pas. Ils finissaient par mourir de faim. Ce qui était d'ailleurs le signal à ce moment-là de la réintégration de ce monde qu'a connu avant le péché originel, caractérisé par la lumière, et où la mort d'ailleurs n'était pas à l'ordre du jour. Et par conséquent, la reproduction n'était pas non plus un mal nécessaire. Donc, le mal, si vous voulez, le mal est dans la matière. Et donc, tout l'effort va consister à s'en détourner. Vous voyez, remarquez que c'est quand même dans la logique, ça, qu'on retrouve dans la logique aristotélicienne. La perpétuité de la matière était le lieu du mal. Lacan, lui, va plutôt situer la mauvaiseté, le mal, ailleurs, dans une toute autre dimension. Alors, le mal, dit-il, il est dans le cœur de ce qu'il tente de définir d'Hastings, de la chose. Mais c'est en tant que qu'elle n'est pas, la chose n'est pas le signifiant, et c'est en tant que la chose n'est pas non plus la matière de l'œuvre. La chose, c'est en tant que la chose maintient en son cœur la présence de l'humain. Bon, c'est pas simple à saisir, ça avait déjà été un peu abordé, je pense, la fois dernière. Ce que Lacan tente d'expliquer, c'est qu'au cœur même de l'œuvre artistique, il y a dans son fondement, au plus profond de l'œuvre, quelque chose de l'ordre du déchet, de l'horreur. Et c'est ce qui fait dire à Lacan que la chose est du domaine du réel. Si la chose est du registre du réel, et qu'elle est impossible, au fond, à signifiantiser, à imaginer, une question se pose alors. Ça, c'est le problème de la sublimation. Donc, il avance. Il avance encore et il se demande pourquoi l'hérésie cathare a bien pu prendre naissance en Europe à partir de la fin du XIe siècle. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Ce qui s'est passé avant est autre chose, de fort intéressant, qu'on ne va pas développer ici, ou du moins un tout petit peu, mais qui sera développé les fois suivantes. Ce qui s'est passé avant, ce qui précède la philosophie cathare, dans un style de vie qui s'appelle l'amour courtois. Et on n'a, semble-t-il, pas beaucoup d'explications sur ce succès, parce que ça a eu beaucoup de succès, ce succès de l'amour courtois. Rien, aucune explication n'a été satisfaisante, on n'a pas pu expliquer ce succès de cette extraordinaire mode à une époque. Et au fond, on sait que par ailleurs, les mœurs, au contraire, à cette époque-là, en opposition à ça, n'était pas si pure que ça. On s'en rappelle une époque féodale au cours de laquelle les mœurs étaient plutôt celles des bandits. Et on peut se demander comment il se fait que durant cette période de l'histoire apparaît ce style de vie entre l'homme et la femme qui se caractérise par quelque chose qui est tout le contraire de ça. Alors, donc ça sera déplié par la suite encore, hein, puisque ce sont les leçons qui vont suivre, je pense. C'est quoi l'amour courtois ? Alors, l'amour courtois, selon Lacan, se caractérise par un point très précis, par ceci. C'est d'élever l'objet féminin à la plus haute dignité. La dame, avec un D majuscule, c'est comme ça qu'on la nomme, au temps de l'amour courtois, la dame est objet de louange. De service auquel l'homme se soumet complètement sans jamais l'atteindre, sans jamais la toucher, et il amène à toutes sortes, la dame l'amène à toutes sortes de comportements et de rituels par rapport à elle. La dame est devenue, on voit ça dans la littérature courtoise, est devenue l'objet de toutes les vénérations, toutes sortes de vénérations, de louanges, de soumissions. Et ce qui frappe l'esprit, c'est qu'on a l'impression, c'est un romantiste qui fait cette remarque, c'est André Morin, qu'on a l'impression, donc André Morin était professeur à l'Université de Lille, hein, on a l'impression qu'au fond, à travers tous les textes, quand on traverse tous les textes de cette époque, de l'amour courtois, on a l'impression que les auteurs louent tous une seule et même personne. On a l'impression que c'est la même, sans jamais qu'on ait mis le doigt dessus. Alors c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont occupé cette place, la fonction de la dame. Il y a eu par exemple Éléonore d'Aquitaine, il y a eu sa fille, la comtesse de Champagne. Mais on peut se demander, au fond, quel rôle exact jouaient ces personnages qui étaient engagés dans cette fonction. Il y a là une énigme que les philosophes, les historiens, les gens qui se sont intéressés à ça n'ont pas levé. Alors, ben Lacan va donner une piste tout de même pour essayer de répondre à ça. Il propose ceci. De concevoir ce phénomène de l'amour courtois en tant que la dame elle-même est une œuvre de sublimation dans sa portée la plus pure. Et il faut donner à cet objet, appelé en l'occasion la dame, la valeur de, alors je reprends, pas de présenter, mais de représenter la chose. Je marque un tout petit temps d'arrêt parce que, en fait, il s'arrête là-dessus, sur cette question-là, sur la question de l'amour courtois, en disant bien, c'est la fin de cette leçon 9, en disant bien que dans la leçon suivante, il va traiter la question de l'amour courtois. Nous sommes donc à la question. C'est la 9 ou c'est la.
C'est la 9.
C'est la 9, oui. Hein. Celle que j'ai faite, c'était. Oui, la 9, c'est la 10. Alors la 10, figurez-vous que la 10, elle est intitulée...
Petit commentaire en marge.
Elle est intitulée comme ça par Miller, parce qu'en fait, il reprend une phrase de Lacan lui-même. Il ne va pas aborder la question de l'amour courtois. Donc, je vais vous décevoir aussi. Je ne vais pas vous parler de l'amour courtois. Mais donc, la science suivante, Lacan annonce qu'il ne va pas parler d'amour courtois. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « je ne suis pas en forme ». Et il n'a pas préparé son cours. Enfin, il n'a pas préparé la question de l'amour courtois parce qu'il explique quand même qu'il travaille beaucoup, effectivement, quand dans la leçon précédente. Je suis impressionné par le nombre de références qu'il fait, de lectures qu'il a faites pour préparer la leçon précédente. Mais quand même, il a préparé pas mal de choses, vous allez voir, fort intéressantes. Très intéressantes. Même s'il n'est pas en forme, comme il dit. Et c'est la raison pour laquelle il appelle Jacques-Alain Miller à intituler cette leçon « Petit commentaire en marge ». En marge. Et l'amour courtois fera l'objet des séances précédentes. Il précise quand même ceci, il dit que tout de même que l'amour courtois est une forme exemplaire et un paradigme de la sublimation et de ses retentissements. Il dit que ces retentissements donc de l'amour courtois sont encore sensibles au XXe et probablement aussi au XXIe siècle. On pourrait croire que c'est un phénomène esthétique, mais l'exemple de donc, la référence à l'amour courtois est intéressant parce qu'elle rend sensible l'importance de la sublimation. C'est un exemple capital, il a travaillé beaucoup la référence à l'amour courtois pour tenter d'approcher justement la problématique de la sublimation. Alors, il avance comme ceci. Il abandonne la question de l'amour courtois, il la reprendra par la suite. Mais il prend une référence à une formule que Freud a amené, et un rapprochement que Freud a fait. Freud, avait rapproché les mécanismes de l'hystérie, de la névrose obsessionnelle et de la paranoïa de trois autres termes de la sublimation. Donc hystérie, névrose obsessionnelle, paranoïa. Et il les a rapprochés de l'art, de la religion et de la science. Freud aussi avait rapproché la paranoïa d'ailleurs du discours scientifique. Hein. Alors, quel est l'intérêt de faire cette référence à ces formules de Freud ? Eh bien, dit-il, ça va nous permettre d'ordonner la fonction de la sublimation dans la référence précisément à la chose. Donc, d'approcher la question de la chose, de ce réel, du réel de la chose. L'art, la religion et le discours scientifique ont tous les trois la même préoccupation, celui de la chose, et tente de donner une réponse à la chose. Et ici Lacan donne une définition tout à fait intéressante. Il explique que la fois précédente, il a pris l'exemple paradigmatique du vase pour tenter de saisir ou de situer la chose à la place de l'homme dans le cas de la création du vase. Hein. L'homme en tant qu'il est le médium, entre le réel et le signifiant. L'homme en tant que façonnant le vase. Eh bien, l'homme, donc, rate quelque chose, rate ce qu'il en est de la chose. Il ne peut pas réussir à l'attraper, la chose, parce qu'il doit en passer par le signifiant pour tenter d'en attraper un bout, si vous voulez. Et c'est pourquoi Lacan peut dire que la chose est ce réel qui pâtit de ce rapport fondamental initial de l'homme au signifiant. Donc, c'est parce que l'homme pâtit, c'est parce que l'homme est, on pourrait dire, handicapé par le symbolique qu'il se prend les pieds et dans le tapis concernant le réel, concernant la chose. C'est du fait que l'homme, disons, est quelqu'un qui parle et qui doit passer par le signifiant pour tenter d'attraper ce qu'il en est du réel, qui de toute façon il rate. En somme, c'est l'effet de l'incidence du signifiant sur le réel qui est en cause. Et cette chose dont Lacan nous serine les oreilles, cette chose que l'homme tente de représenter par toutes les œuvres sublimées, cette chose sera toujours représentée par un vide. Vous allez voir ça, vous allez voir comment il amène ça. Représentée par le vide que l'art, la religion, le discours de la science tentent de combler, de rattraper. La chose est représentée par un vide parce qu'elle ne peut pas être représentée par autre chose. Donc reprenons maintenant ces trois formes de sublimation qui ont été mises en évidence par Freud. L'art, la religion et le discours de la science. Eh bien, ces trois formes ont effectivement affaire avec le vide. D'abord, tout art se caractérise d'une certaine façon par un certain mode d'organisation autour du vide. Vous verrez, je vais amener des exemples qui sont saisissants. La religion, quant à elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Mais la religion, dans tous les modes de la religion, tous les modes de religion, c'est d'éviter ce vide. C'est ce que Freud a mis en évidence, notamment chez l'obsessionnel. L'obsessionnel, le comportement religieux répétitif de l'obsessionnel, ça consiste désespérément à tenter d'éviter le vide. Mais on peut étendre les préoccupations du comportement religieux, cette préoccupation à tous les comportements religieux. Le vide dans la religion reste au centre, si vous voulez. Et c'est ce dont il s'agit dans la sublimation. Et pour ce qu'il en est du discours de la science, Freud s'appuie sur la paranoïa. Sur la paranoïa parce que, donc pour mettre en évidence, si vous voulez, un thème qu'il a utilisé, qui est celui d'incroyance. Unglauben. L'incroyance qui est le rapport de la paranoïa avec la réalité psychique. l'incroyance du paranoïaque, ça n'est pas la suppression, la suppression de la croyance. C'est, au fond, on ne va pas reprendre toute la question de la psychose ici, mais on est ici au séminaire 7, donc il a eu l'occasion de parler de son séminaire 3 avant, qu'on a déjà d'ailleurs travaillé. Hein. Mais dans le séminaire 3, il y a un rapport particulier du sujet à la vérité et qui est la conséquence de quelque chose qui est celui de la forclusion, la verwerfung. La forclusion, c'est, elle est reprise ici dans sa modalité de rejeter la chose, de rejeter le réel. Et vous savez que, donc comme dans la religion d'ailleurs, donc si rejeter le réel, il réapparaît sous une autre forme. La croyance du psychotique, c'est très précisément concevoir en rapport avec la chose en tant qu'elle est rejetée. Donc, on voit qu'il y a trois modalités. Lacan propose trois modalités de traiter de la question de la chose. Dans l'art, la chose est refoulée. Dans la religion, la chose est déplacée. Et dans le discours scientifique, la chose est forclose. Le discours de la science rejette la présence de la chose, pour autant que dans sa perspective, dans la perspective de la science, hein, eh bien se profile l'idéal, il y a quand même un idéal qui est celui du savoir absolu. Et chacun sait que dans cette perspective, ça s'avère en fin de compte dans l'histoire comme étant un échec, ça représente un échec. Et Lacan ajoute même que, comme il a montré dans ses travaux sur la psychose, que ce qui est rejeté du symbolique, ça reparaît dans le réel, de toute façon. Alors, petit moment de dilettante, peut-être, une minute. Pour terminer cette séance, puisqu'il ne parle pas de l'amour courtois, il va nous faire, pour terminer la séance sur la chose, il va nous faire un petit cours d'histoire de l'art. Donc de l'art en tant que qu'une certaine organisation autour du vide. Alors, attendez un petit instant. Hein. Donc, je veux que ça fasse surprise pour vous. Vous n'avez pas le temps de le digérer, que ça vous saute aux yeux. Donc, il a voulu pour ce cours amener qu'on définit comme étant une anamorphose. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une anamorphose. En fait, une anamorphose, c'est un objet, c'est une œuvre. Alors, c'est une œuvre qui demande, pour être comprise, un petit détour, si vous voulez, un petit commentaire d'histoire de l'art mais il n'est pas parvenu à trouver l'objet en question. Donc il va essayer de le décrire. Alors c'est quoi l'anamorphose ? C'est une construction qui est faite de telle sorte que par, si vous voulez, un effet d'optique, une image qui est illisible quand vous la voyez comme ça, eh bien tout à coup, elle devient lisible. C'est pour ça que je vais vous faire ce coup-là. Non. Et tout plaisir, justement, consiste à voir surgir de cette image qui a une forme indéchiffrable, de voir surgir une image qui devient tout à coup lisible. Non. Je vous rappelle qu'on parle de la chose. Surgissement tout à coup de quoi ? De l'horreur, je vous ai dit aussi. Hein. Enfin, vous allez voir quand même qu'à un moment donné, on peut avoir ce sentiment, il faut se pouvoir tout à coup se remettre à cogiter, donc à construire, à faire une chaîne signifiante, une pensée, pour se dire « Ah oui, c'est pas ça. » Eh bien, donc cette anamorphose, au fond, on peut la dessiner au tableau assez facilement. Je ne peux pas la dessiner. Tant pis. Ouais. En fait, vous allez, elle va apparaître aussi. Hein. Donc, c'est au fond un cylindre un cylindre qui a un effet de miroir. Donc c'est un cylindre déformant, si vous voulez. Et ce cylindre est conçu de telle sorte que, ouais, un cylindre, voilà, que dans le bas du cylindre, il y a une gravure qu'on ne reconnaît pas. Il y a un dessin sur ce cylindre qu'on ne reconnaît pas, mais qu'on ne peut reconnaître que quand jetant un coup d'œil dans le cylindre. Et donc il voulait amener une anamorphose qui est en fait une œuvre d'art, qui est, je pense, une crucifixion de Rubens. Crucifixion. Donc, en fait, l'anamorphose, il faut savoir qu'elle a répondu, j'ai encore un peu le temps,
Oui.
Mais l'anamorphose, elle a répondu à un moment précis dans l'histoire de l'art. Elle est apparue, au moment de la Renaissance. Et pour voir ce que c'est, je vais vous la montrer, hein, ce dont il parle. Pour voir ce que c'est, il faut aller au Louvre pour observer un tableau qui est celui des ambassadeurs d'Holbein. Donc c'est le tableau que vous trouvez aussi sur la couverture du séminaire 11. Bon, il va être affiché. Bon. Alors ce tableau, il est daté. C'est un phénomène qui apparaît au XVIe, XVIIe siècle. Et Lacan nous fait faire un petit tour pour expliquer comment, à un moment donné, il est arrivé dans l'histoire de l'art, dans la peinture précisément, mais pas seulement dans la peinture, aussi dans l'architecture. Donc, pour arriver à ce stade-là, mais vous verrez qu'il y a d'autres stades encore après, puisque je vais vous montrer des réalisations toutes récentes, hein. Pour arriver à ce stade-là, eh bien, il y a tout un effort de l'artiste, du peintre, de l'architecte. Et cet effort consiste en quoi ? Eh bien, pour y arriver, la question s'est posée au départ. Je vous ai dit que donc, le premier objet d'art, au fond, c'est plutôt le vase lui-même, le vase qui s'organise autour d'un vide. Et d'ailleurs, dit Lacan, on peut très bien concevoir que, par exemple, la cathédrale, les cathédrales sont construites comme ça. Elles sont construites autour d'un vide. Il suffit d'aller voir la cathédrale Saint-Marc. Je pense que je vais représenter la cathédrale Saint-Marc. Elle n'est pas dedans ?
On a le théâtre de Palladio, mais pas là.
Non, pas là. Alors, je m'entends. Mais c'est en fait tout le sens de toute l'architecture, dès ses origines. L'architecture primitive se préoccupait d'organiser le vide. Et puis le pas suivant, donc il y a eu ça, organiser le vide au niveau de l'architecture. Et le pas suivant, ça a probablement pour des raisons économiques, nous fait remarquer Lacan. Eh bien, on va devoir se contenter des images de cette architecture. Donc, on se contente de peindre l'architecture sur les murs. Et c'est dont les questions, c'est de peindre quelque chose qui s'organise autour d'un vide. On essaie de faire quelque chose avec la peinture qui s'en approche de plus en plus. Et là, j'ai ramené une peinture de... fond de la scène primitive de Léonard de Vinci, qui déjà, si vous voulez avoir un plan en une dimension, il y a tout un travail qui est fait pour essayer de le mettre en perspective, si vous voulez. Oui, le premier, vous voyez. Ah oui, ben voilà l'anamorphose, on peut la montrer, l'anamorphose, voilà. Ça, c'est une... Ah non, c'est... C'est pas ça, c'est une anamorphose. Vous la voyez? C'est suffisamment clair parce qu'on pourrait peut-être éteindre un peu. On doit éteindre un peu? En tout cas devant, si c'est possible. Ça y est, c'est bon? Ça, c'est une anamorphose. Alors, c'était une anamorphose de ce style-là que Lacan voulait amener, mais alors au lieu d'avoir cet écureuil, si vous voulez que vous voyez représenté sur le cylindre, C'était une peinture de Rubens. C'était la crucifixion qu'on ne reconnaissait pas du tout, mais qui surgissait, si vous voulez, à la vue, une fois que on avait posé le cylindre. Alors, il y a eu c'est l'anamorphose. Mais donc, il y a eu, dans l'histoire de l'art, la tentative de représenter le vide, et on peut montrer notamment l'une ou l'autre peinture, par exemple celle-ci, qui est une peinture du Titien, hein, qui je trouve fort intéressant. Et puis il y a la suivante aussi, qui est une peinture de Léonard de Vinci. Ah, ça, c'est, elle était dessus de Léonard de Vinci?
Non, il n'est pas dessus.
Bon,
dans ce
tant pis.
M'avait envoyé.
Oui, mais c'est bien. Alors, mais donc ici, en fait, le pas suivant, ça a été d'essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire de représenter cette sorte de perspective du vide qu'on avait dans la peinture, mais au niveau architectural. Et là, il y a notamment le théâtre du Palladio à Vicence, qui est tout à fait intéressant. Vous voyez que sur le plan en coupe, sur le plan vu de dessus, on a ceci. Mais quand on le voit, on peut mettre l'image suivante, quand on le voit de face, c'est tout à fait intéressant parce que ça apparaît. Ah, évidemment, là, ce n'est pas suffisamment. Non, ça, c'est pas.
Si, c'est celle-là.
C'est le Palladio, donc il n'est pas suffisamment clair, mais où il y a effectivement cet effet de perspective, notamment dans la nef centrale, qui est tout à fait intéressant. Alors, c'est une réalisation néoclassique qui se soumet tout à fait aux lois de la perspective. Alors, elle joue avec les lois, et c'est une réalisation architecturale à l'intérieur du bâtiment, et c'est quelque chose qui est fait dans la peinture pour retrouver le vide architectural primitif.
C'est un trompe-l'œil.
Comment ?
C'est un trompe-l'œil.
C'est un trompe-l'œil.
On le voit quand on revient au plan.
Oui, on le voit quand on revient
on
au plan.
On n'a jamais la profondeur indiquée par le décor.
Il faut le prendre, voilà. Dire au micro. Voilà.
Donc c'est un trompe-l'œil, et enfin on n'a jamais dans l'effet de perspective donné par le décor et la peinture une profondeur qui correspondrait dans la réalité. C'est vraiment une construction artistique.
C'est un trompe-l'œil.
Ouais.
Mais le trompe-l'œil, le pas suivant, c'est on revient à la peinture à ce moment-là et on arrive au baroque. Et donc Lacan propose que le baroque, qui exploite tous les jeux de la forme, eh bien, touche vraiment à tous les procédés, et par exemple à l'anamorphose. Alors, le baroque, c'est un effort pour restaurer le sens véritable de cette recherche artistique. Vous pouvez montrer peut-être le...
Là, il y a Holbein.
Voilà, c'est celle-là, c'est Holbein. Alors, donc, c'est cette fameuse toile que vous percevez là. Vous la voyez là, jusqu'au fond? Alors, vous la reconnaissez? Est-ce que vous la voyez au fond, là-bas? Alors, observez-la bien. Alors, dans le bas, il y a là un objet. Vous voyez cet objet, cet objet bizarre. Alors, peut-être que certains savent ce que c'est, mais est-ce que vous reconnaissez cet objet? Eh bien, cette toile, c'est une vanité. En fait, cette toile est faite. Elle est faite pour que... Donc, quand vous allez au Louvre, vous la voyez, cette toile. Et si vous quittez la salle où elle est exposée, si vous la quittez par la pièce du fond, dans le fond, par la petite porte du fond, si vous jetez un dernier coup d'œil à la toile, vous verrez que dans le bas, par un effet de trompe-l'œil, vous allez reconnaître un crâne. Au fond, si on se situe tout à fait là-bas, à votre gauche, quand vous observez la toile, tout à coup surgit la chose. Tout à coup surgit quoi? Surgit la mort. Donc cette toile, on ne la reconnaît pas, elle est là comme voile, en tant que voile, pour tromper. Voilà. C'est une tentative de représenter l'horreur qu'il y a derrière le voile. Et je voudrais, pour terminer, on aura encore un peu le temps de parler après, Pour terminer, je voudrais vous montrer un petit montage tout à fait moderne, mais fort intéressant. Vous verrez que là, en fait, il y a un effet saisissant. Vous devez reconstruire vous-même le montage pour vous apercevoir que ça n'est pas l'horreur du vide, justement. Vous pouvez le montrer ?
Voilà.
Faut pas aller trop vite. Hein.
Je sais pas pourquoi il va vite.
Passer à la suivante, oui.
Mais...
Voilà, je vais terminer là-dessus. Un peu le temps.
Bon, alors je vais peut-être reprendre comme je fais d'habitude, les questions qui sont venues au fond. Donc, quand vous avez parlé de la notion de l'objet retrouvé et de l'effet d'après-coup, qui est la supposition qu'il y avait un objet perdu, en parlant de Picasso, et vous avez souligné le fait qu'il disait « je trouve »,
je suppose... Je ne cherche pas.
Voilà, je ne cherche pas, je trouve. On peut le comprendre dans son opération artistique de création comme un « je retrouve ». Est-ce qu'on pourrait dire ça ?
Pourquoi pas, oui. Je pense que c'est ça, c'est-à-dire... Oui.
Si on le lisait en termes analytiques, enfin plus analytiques, ce « je trouve » serait un « je retrouve ». Enfin, ça, c'était une question. Alors, il y a une image qui m'est venue lorsque vous réévoquiez le potier et son geste créateur et au fond, la fonction du premier outil. Je me disais qu'il y avait une autre métaphore contemporaine qui était le film 2001, l'Odyssée de l'espace, où on voit finalement ce primate qui n'est pas encore homme et qui, parce qu'il se saisit de l'outil, au fond, qu'il fait d'un objet un outil, accède à ce statut d'humain. Voilà, il semblait qu'il y avait là un parallèle qu'on pouvait faire, en tout cas éloigné dans le temps, mais ça a évoqué ça.
Mais là, on a donc un moment, dans l'enseignement de Lacan, au début de l'enseignement de Lacan, ce qu'il fait remarquer, c'est donc, si on part de la thèse créationniste, en fait, la thèse créationniste, c'est partir de la matière pour faire le vide. C'est ça, c'est la thèse aristotélicienne, si j'ai bien compris. Lui, ce qu'il propose... C'est l'inverse, c'est de dire il y a le vide et on crée le signifiant autour. C'est comme ça que le signifiant existe. Hein? Et donc, ça, c'est pas si simple que ça à comprendre. Hein? C'est comme ça que Lacan. C'est la création ex nihilo. Donc, c'est pas à partir de la matière, c'est que la matière. Bon, ce qu'il fait valoir, c'est quand même le signifiant d'abord. C'est quand même. dans la perspective biblique, il adhère plutôt. Il ne dit pas que ce n'est pas une question de savoir, ce n'est pas une question théologique, je pense. Mais il parle du vide, il parle du rien, et il crée quelque chose autour. Et au fond, on pourrait même dire que c'est le signifiant qui constitue la chose, au fond. Parce qu'après tout, dans le règne animal, la chose n'existe pas. Enfin, il faut parler, il faut le langage, pour avoir une idée que la chose, qu'il y a un réel.
Alors, oui, je me suis dit aussi, vous avez insisté sur le fait que l'homme pâtit du signifiant.
Oui.
C'est
Lacan, hein,
qui dit ça. Oui, c'est ça. Lorsqu'on dit pâtit...
Oui, moi je le dis aussi.
Oui, mais vous avez insisté sur ce terme-là, oui, c'est oui. Ça que je voulais dire. Au fond, heureusement qu'il en pâtit, on pourrait dire.
Bien sûr.
On en voit, c'est un... Enfin, il faut l'entendre.
C'est parce qu'il en pâtit qu'il désire.
Voilà. Aussi, hein. Et on voit bien ce qui se passe quand on n'est pas arrimé au symbolique, lorsqu'on travaille avec des sujets pour qui le symbolique ne vaut pas, et donc qui pâtirait moins de ce signifiant, si je peux dire.
Oui. Enfin, je pense qu'ils en pâtissent aussi. Hein.
Oui.
Ils se débrouillent. Comme nous nous débrouillons.
Et alors, finalement, une des dernières choses que vous avez amenées, en reprenant la distinction entre art, religion, discours de la science, évidemment, dans le lieu où on est, je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter sur la question du discours de la science et de cette forclusion qui rejetterait la chose à l'extérieur dans ce discours de la science. Et au fond, je me demandais, en tout cas c'est un de mes questionnements ici, ce que peut être une science en tant qu'elle sait qu'elle se l'œuvre. Et donc je pense que ça peut ouvrir à toute une réflexion épistémologique qui prend en compte, par exemple, la dimension de l'interprétation de celui qui cherche ou ce par quoi il est orienté comme sujet. Voilà. C'est juste une petite
remarque. Oui.
Mais je pense que c'est en tout cas une question qui, ici, au départ du XXIe siècle, peut être ouverte et me semble riche de perspectives. Voilà. Alors, si vous avez des questions. Oui, Philippe.
Je peux passer le micro. Tu parles des forces, c'est ce que tu as bien montré, justement. C'est ça qui est difficile à frapper, c'est juste c'est cette
affaire,
à cette question du rapport du signifiant et de la chose et du vide. Hein, c'est que, si on peut pas trop s'emprisonner dans la chronologie, justement.
C'est ça,
voilà. Parce que sinon.
On se prend les pieds dans le tapis,
voilà.
On
Au commencement, dès le verbe, ça, oui. On sait que. Bon, hein. Lacan ne dit pas le contraire, sauf il dit qu'au commencement, il complète la phrase. Il dit que le verbe, qui est très lacanien, c'est de dire que le réel, il n'y a pas de réel s'il n'y a pas de signifiant.
Voilà.
Hein? Il n'y a pas le réel tout seul. Hein? Ou en tout cas, c'est un autre réel. Et on ne sait absolument pas ce que c'est que le réel pour les oiseaux avant que Bernard n'ait nommé les moineaux, avant que les moineaux n'aient reçu un nom, on ne sait absolument pas ce que c'est que le réel pour eux. Moi, j'ai toujours compris ça comme ça.
Tout à fait, non,
exactement. C'est pour ça que sur le premier séminaire,
c'est comme ça qu'il faut comprendre, voilà. L'après-coup.
C'est pour ça que les éléphants ont beaucoup souffert du nom éléphant.
Oui.
Hein, c'est pour ça qu'aussi au séminaire 1, il y a l'éléphant sur la couverture, parce que ça introduit le vide chez les éléphants, c'est que ça les supprime, mais que le signifiant introduit un vide. Ce qui serait aristotélicien, justement, c'est de dire que le signifiant amène un autre signifiant, ce qui est vrai aussi, et de signifiant en signifiant en signifiant, eh bien on se retrouve dans le fond. Lacan dit, il parle de clôture, Hein, on étouffe, autrement dit.
Oui.
On dirait que c'est peut-être le rêve universitaire, mais en fait, signifiant, signifiant.
Mais,
ce que Lacan amène, c'est que le signifiant amène un vide.
Oui, on se retrouve où l'un des excès, c'est notamment l'hérésie cathare.
Voilà. Et donc, et ce qui est évidemment frappant, c'est que c'est le signifiant. Ce qui est quelque tout à fait remarquable chez Lacan, c'est quand on en fait c'est là qu'on voit que Lacan ne fait jamais de linguistique, en tout cas ici. C'est là qu'il y a de la linguisterie, comme il dit. C'est que si on raisonne en termes de linguiste, eh bien on dira que le signifiant amène un autre signifiant, ça c'est le truc du dictionnaire, on garde un mot, forcément on tourne les pages. Si on chipote un peu, on dira que ça amène une signification. Tout ça, pas besoin de Lacan pour dire tout ça. Par contre, ce que Lacan amène dans tout ça, c'est qu'il dit que le signifiant amène un vide. Hein? Et que c'est ce vide, c'est le vide qui fait danser le monde. C'est le vide qui fait tourner le monde. C'est cette robe de chaud, c'est le vide du vase qui fait tourner le monde. Et quelque chose ne devient désirable qu'à partir du moment où il prend la place de ce vide. C'est ça que tu fais.
Oui, l'objet.
Alors, il y a un raisonnement qui apparaît un raisonnement tournant, mais si on prend la chronologie, c'est un petit peu, on se prend les pieds dans le tapis, d'une certaine façon, les deux sont là en même temps. Enfin, dans sa façon de raisonner, les deux sont là en même temps, avec quand même un attrait, enfin, une prépondérance donnée au livre. Pas aussi signifiant, me semble-t-il. Lacan s'intéresse plutôt au vide du... Le vase, et ce qu'on dit quelque part, c'est l'ornibus. L'ornibus était de qui? Est-ce qu'on m'a fait l'ignorer? Ce qui l'ignore, c'est une marque de moutarde.
Oui, oui.
Là, il y a une marque de moutarde, oui. L'ornibus, voilà.
C'est la marque de moutarde.
Comme je ne connaissais pas. Bon, mais donc, c'est pas tellement intéressant. Mm-hmm. Hein? Mais... Voilà, donc c'est plutôt le vide, c'est ça qui est...
Je voudrais demander comment vous voyez le rapport du vide avec l'objet regard. Ça, ce que vous avez montré illustre bien le rapport de l'objet, la fonction scopique avec l'œuvre d'art, et que devient ce vide dans d'autres domaines quand le regard n'est pas impliqué dans d'autres aspects de la création artistique.
Mais donc d'abord l'objet regard, c'est ce qu'il va développer plus tard, hein, dans le séminaire 11 notamment. Il y a tout un chapitre là-dessus, et il va d'ailleurs reprendre la question de le problème de l'œuvre d'art. Mais je pense qu'il en fait l'appliquer ici est quelque chose de beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que ici sont impliqués le signifiant et le vide. Et donc, après tout, par exemple, dans l'amour courtois, il n'y a pas l'objet regard, mais il s'agit de tenter de circonscrire la chose. De circonscrire le vide. Et la dame vient à cette place-là. Et là, l'objet regard n'est pas impliqué. Ici, s'il fallait appliquer ce que j'ai amené comme œuvre d'art, lui, là, il s'agissait de reprendre la question du vide par l'art. Mais s'il fallait l'appliquer à l'objet regard, il est dans l'œuvre elle-même. Ça vous regarde. C'est à ce moment-là que ça surgit. C'est pour ça d'ailleurs qu'il l'amène dans le séminaire 11. Il amène la toile d'Holbein avec le crâne qu'on voit écrasé sur le bas. Il l'amène dans le séminaire 11, parce que c'est le regard, ça vous regarde, c'est le regard n'est pas de votre côté. C'est là où ça surgit tout à coup, ça vous regarde. Et c'est ce moment d'oscillation subjective, de déstabilisation subjective qui vous permet d'en avoir une idée pour l'instant d'après, vous mettre à reconstruire quelque chose et à tenter une explication et à penser dessus. Mais l'objet regard ici n'est pas repris comme tel dans le séminaire sur l'éthique.
Est-ce qu'on pourrait dire que justement le vide, la perspective, Madame Rousseau est une perspective tordue,
oui. Hein,
dépravée, disait. Comme c'est beaucoup étudié ça. Mais donc la perspective, me semble-t-il, parce qu'on pourrait dire que la perspective, c'est ce qui introduit le vide, justement. Hein? Il dit que la peinture a inventé la perspective, c'est vraiment une thèse. Et chez Lacan, on retrouve ça. C'est-à-dire que la perspective, c'est une façon d'introduire dans la peinture le vide autour duquel se construisait le château,
le monde,
l'architecture.
Oui.
Hein? Et donc, n'importe quelle perspective a introduit un point de fuite, donc un point de vide. Hein? Donc pour l'objet regard, il n'en parle pas encore comme ça, mais d'une certaine façon, c'est là qui se trouve.
C'est là qui se trouve, c'est dans le...
C'est la perspective qui fait qu'on est quand même aspiré,
happé
par quelque chose.
C'est qu'au fond, le monde vous regarde, il vous regarde partout et de plus en plus.
C'est une fonction géométrique de l'objet, regard.
Le regard, il est dans le monde. Il surgit, c'est le petit apologue de la boîte de sardines qui flotte sur l'eau. Ou là, vous connaissez ce petit apologue du séminaire 11, il faut aller le voir, c'est notamment une des raisons pour laquelle la toile d'Holbein est reprise en couverture du séminaire 11 pour justement illustrer ce qui peut en être de l'objet regard, qui tout à coup surgit comme ça de la toile, alors qu'on ne s'y attend pas, là où on ne s'y attend pas. C'est qu'il faut reconstruire, se faire une idée, un fantasme, imaginer, pour que tout à coup ça puisse s'effacer, surtout que ça s'efface. Sinon, ça surgit. Et là, au fond, dans le petit montage que vous avez vu, qui sont des anamorphoses modernes maintenant, qu'on fait, ce qui sont très jolies, hein, eh bien là, si on vous avait montré, moi quand j'ai vu la première fois l'anamorphose d'un personnage, j'ai pas vu la construction, vous avez vu la construction ici, mais quand vous voyez la toile terminée et que vous avez un bonhomme qui se trouve à 300 mètres de hauteur en train de regarder le vide, il y a un petit moment c'est de là que surgit le regard. Il y a un moment de vacillation, si vous voulez, qui disparaît quand vous avez compris qu'il ne s'agit pas du vide et que donc, heureusement, ce n'est pas le vide. Et que donc, c'est plutôt une peinture. L'objet regard, il est dans le monde. Il est dans la toile, il est dans le crâne qui surgit tout à coup, qui est une vanité. On peut être aveugle, on peut être atteint de cécité et avoir affaire à l'objet regard. Ça n'a rien à voir. Ça n'est pas la même chose. Vous entendez, je ne sais pas, un texte, une expérience qui peut faire surgir du monde, justement, cet objet regard. Par exemple, je ne sais pas, on peut prendre des tout petits exemples cliniques. Hein. C'est, après tout, quelqu'un qui ne voit pas peut s'entendre appeler, par exemple, dans une salle où il y a du monde, alors que ce n'est pas lui qu'on appelle. On peut faire cette expérience-là. Vous êtes dans une grande salle, vous entrez dans une salle, il y a beaucoup de monde, et tout à coup, vous entendez votre prénom. Il y a là un vacillement, si vous voulez. Il vous faut, là c'est l'objet voix plutôt, mais enfin, Il vous faut un instant pour vous apercevoir que, comment, la question que vous vous posez, comment on me connaît. Il vous faut un instant pour vous apercevoir que ce n'était pas vous. Vous voyez, c'est l'objet regard, il est partout dans le monde, il est maintenant avec les satellites, il est...
Dans ce cas-là, l'objet regard, tu ne le vois pas.
C'est tu ne le vois pas, ouais, c'est ça.
Il te regarde.
Voilà, tu es, je suis regardé, mais je ne le vois pas. Donc, il ne faut pas confondre voir et être vu. Voir et l'objet regard. L'objet regard, c'est tout à coup, quand il surgit dans le monde, quand on s'aperçoit qu'on est regardé, que ça nous regarde plutôt. Parce que quand je dis que ça nous regarde, c'est beaucoup plus, ça a à voir beaucoup plus avec l'intime. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et là, dans les exemples, le crâne, la vanité, on peut se demander pourquoi c'est une vanité. On peut le savoir qu'à un moment donné, quand vous sortez de la pièce et que vous jetez un dernier regard sur la toile, à ce moment-là, on voit surgir la vanité. Parmi tous les objets qu'il y a là, les toutes sortes d'objets hétéroclites que ces deux ambassadeurs présentent, il y a une sorte de plat par terre. On se demande ce que c'est. Il y en a un qui vous regarde.
Est-ce que Lacan, à un moment donné, s'attache à parler ou à étudier l'art abstrait ?
Il s'est fortement intéressé au surréalisme, mais maintenant je ne peux pas... en dire beaucoup plus. Il s'est beaucoup intéressé à Picasso, à tous les peintres du XXe siècle.
Par exemple, oui. Quand on voit l'exposition Manière noire, où est le vide dans cette exposition-là?
Et de quel peintre parlez-vous?
Mais de toutes sortes de peintres contemporains. Mais c'est une exposition où, de manière abstraite, non figurative, on privilégie le noir sur fond blanc.
Oui.
Alors, c'est le blanc qui est le vide.
Mais Lacan va aussi évoluer dans son travail. En fait, ce n'est pas le vide comme tel qui l'intéresse, hein, c'est le réel. C'est son avancée vers le réel. Et il y a un autre séminaire, je pense le séminaire 17, je pense, où il reprend, je pense à peu près dans tous les séminaires, il parle de l'art, et où il reprend cette question, mais d'une toute autre façon, du côté de l'horreur, puisque c'est c'est pas seulement le vide, c'est le vide en tant que c'est l'abîme qui c'est l'horreur de l'abîme, c'est le réel, c'est ça qu'il tente d'attraper, hein. Et plus tard, notamment dans le séminaire 17, je pense d'un discours qui ne serait pas du semblant, il reprend cette question là qui est de façon fort intéressante, où il indique comment les artistes justement tentent de... Je pense que c'est d'ailleurs dans ce séminaire-là qu'il dit que les artistes, les peintres, les artistes ont une longueur d'avance sur les psychanalystes dans leur approche du réel. Et notamment les peintres de la Renaissance, ils s'est intéressé beaucoup au baroque aussi. Eh bien, ces peintres avaient... exploitait la question du réel, tentait de montrer le réel à travers toutes ces peintures, de tous ces saints, de tous les martyrs. On voit comment toutes les joyeusetés qui ont été peintes à cette époque étaient une façon d'attraper le réel. Les peintures qui représentent tous les saints, tous les martyrs, si on veut, sont des artistes qui tentent d'attraper quelque chose de réel. Et je pense que ça n'a fait que progresser. Toute la peinture contemporaine, le réalisme, le naturalisme, le réalisme, le surréalisme, toutes ces écoles vont vers une tentative d'attraper quelque chose du réel. C'est de ça dont il est question. Comme ici, d'ailleurs, ces peintures éphémères, ces artistes éphémères qui peignent maintenant, pas dans les cathédrales, mais en dehors des cathédrales, sur les trottoirs, sur les murs, tentent d'attraper quelque chose du réel, tentent de faire surgir quelque chose du réel. C'est de ça dont il est question. Donc, je ne pense pas qu'il s'agit de dire ça c'est le vide, ça c'est le plein. Les premiers hommes qui ont fait ça sont ceux qui ont, sont les potiers. Mais par la suite, il y a une tentative de sublimation, si vous voulez. Ça va toujours vers ça. Comme ces œuvres, ces choses qu'on représente comme des œuvres qui sont l'horreur, c'est-à-dire les cadavres ou bien les œuvres de Duchamp par exemple aussi, hein, qui sont une tentative d'attraper quelque chose. Là on peut dire qu'il y a quelque chose du vide qui est représenté de nous.
Ou des installations.
Oui, tout à fait. Ben, Duchamp par exemple est assez assez représentatif de cette tentative. Mais il y en a d'autres, hein. Enfin, je pense celui-là parce qu'il passe par la tête. Mais... Donc je ne sais pas si c'est le noir ou si c'est le blanc dans sa pureté. Vous voyez ce procès qui a été fait à cette femme qui a posé ses lèvres, son rouge à lèvres sur une toile. On peut se demander pourquoi ça fait tant de vagues. Hein, ce procès qui a eu lieu d'une toile, je ne sais plus de quel peintre, qui était... Une toile, le carré blanc, et elle est venue poser ses lèvres sur le carré blanc. Là, ça fait un drame absolu. Je pense que c'était... Pardon.
Vous dites, renvoie à carré noir sur fond blanc dans les vitres, et que c'était quand même, je veux dire, le passage à la monochromie, c'était quand même très symbolique d'une radicalité, d'une négation, d'une césure, tout ce qu'on veut. Voilà.
Oui.
Oui. Peindre le rien, c'était déjà une expression
à l'époque. Oui, tout à fait.
Le noir a là-dedans toute sa valeur symbolique. Quoi. On peut continuer.
Je me promets, quand j'aurai le temps, d'aller suivre un cours d'histoire de l'art. J'aimerais bien, oui.
Merci.